Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mamou.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue de Studio Tamani. Aujourd'hui, nous allons parler de la tension entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Quelle chance pour une résolution à l'amiable. L'affaire des 46 mercenaires ivoiriens est une affaire judiciaire et bilatérale entre deux pays frères. Elle ne relève pas des attributions du secrétaire général des Nations Unies. Cette déclaration du Premier ministre malien par intérim à l'ONU doit-elle inquiéter ou susciter de l'espoir quant à la résolution de ce problème entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Quelques heures auparavant, la CEDEAO a demandé, je cite, la libération sans condition des militaires ivoiriens. Fin de citation. L'organisation sous-régionale a annoncé l'envoi d'une délégation de chefs d'État au Mali. Y a-t-il encore des chances pour une résolution à l'amiable? Comment éviter le pire dans ce dossier? Studio Tamani aborde le sujet dans ce grand dialogue avec nos invités. Doura Cheikh Diarra du Parti Solidarité Africaine pour la démocratie et l'indépendance, Sadi Assitou Sangaré, présidente du Parti pour le renouveau et le développement PRD, Mahamadou Doucouré, vice-président du Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, Fusil Mali, et Dr Abdoul Sogodogo, universitaire et analyste politique. Sekou Gadjigo va modérer ce débat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Merci, chers invités, d'avoir répondu à cette invitation. Tout d'abord, cette question plateau à vous quatre. Comment avez-vous apprécié la déclaration du Premier ministre concernant la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire, Madame Sangaré?
Merci, Monsieur Kadigo. Et moi, je qualifie. J'ai apprécié d'abord le discours de notre Premier ministre par intérim lors de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je qualifie ce discours de trois manières. Exceptionnel, dans la mesure où on n'est pas habitué d'entendre lors des sessions de l'Assemblée générale des discours de ce genre, pas du Mali seulement, d'autres pays d'Afrique et du monde. Et deuxièmement, d'historique, parce que de mon entendement, je n'ai pas vu un discours prononcé depuis de belles lurettes à l'Assemblée générale, qui a autant fait parler des Africains d'eux-mêmes et de leur destinée ou des possibilités de pouvoir faire les choses d'eux-mêmes ou par eux-mêmes.
Oui, mais s'agissant de cette crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire, consécutive à l'interpellation des militaires.
J'en viens, et troisièmement, de remarquable, parce que ça va rester longtemps dans les mémoires des uns et des autres, parce que ça contient énormément d'éléments. Et pour ce qui a trait à la question de la Côte d'Ivoire, dont la partie dans ce discours a fait couler beaucoup d'encre, je dis que l'histoire des 49 ou la question des 49 militaires ivoiriens, ou dont trois femmes ont été libérées, peut se régler encore. Il y a de l'espoir pour régler cette question. Dans la mesure où dans ce même discours, c'est expliqué que c'est une affaire juridique et une affaire bilatérale. Moi, je souhaiterais juste que notre pays, le Mali, ne traîne pas avec la partie judiciaire de cette affaire. S'il y a des preuves, dont des agissements dont ils sont accusés, comme ça a été dit dans le discours, notre justice est indépendante, donc que l'indépendance de la justice se fasse faire voir. S'il y a condamnation, que cela soit. Mais ce que je vais ajouter, si la partie judiciaire est terminé, que le président Assimi n'oublie pas. L'histoire n'a pas commencé aujourd'hui et s'arrêtera pas aujourd'hui. Qu'il utilise la possibilité de la grâce présidentielle, les gracier et les remettre sains et saufs à leur pays.
D'accord.
Voilà.
Ok. Doura Cheikh, vous êtes du parti Sadi. Comment avez-vous apprécié ce discours du Premier ministre concernant la question des militaires ivoiriens détenus ici?
D'abord, il faut dire que ces discours, de façon générale, ne pouvaient qu'être présentés comme tels après un Choguel Kogala Maïga, un premier ministre intérimaire doit tout faire pour dire oui, nous sommes là, ça continue. Ça continue. C'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle se trouve notre pays, les autorités doivent beaucoup plus agir et parler moins. Beaucoup plus agir et parler moins. C'est vraiment intéressant. Il faut aller vers les actions et ne pas beaucoup parler. Parce que comme on le dit, la parole, eh bien, elle est très dangereuse. Elle est très dangereuse. Les mots n'expriment pas toujours ce qu'on a en tête, n'expriment pas toujours les idées. On peut parler avec de très bonnes intentions, mais ça peut être interprété d'une autre manière. Moi, par exemple, si j'étais le Premier ministre, je n'allais pas perdre mon temps. Le Premier ministre, par exemple, je n'allais pas perdre mon temps pour parler du président du Niger. Je n'allais pas perdre mon temps là-dessus. Parce que je me demande en quoi cela va me faire avancer dans le combat contre tous ces problèmes-là dans lesquels le pays se trouve plongé.
Mais vous pensez qu'il était nécessaire qu'il réponde à ceux qui se sont exprimés sur la question des militaires ivoiriens détenus?
Moi, je pense que oui, bien sûr. Mais ce qui est aussi vrai, ça, il faut le dire, c'est une erreur. Ça, je crois que nous devrons avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire. C'est une erreur de dire que ce n'est pas une affaire de l'ONU. C'est une erreur. Parce que le Mali est un pays membre de l'ONU. Et le Mali a signé des conventions, des chartes. Le Mali est soumis à une réglementation. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas une affaire de l'ONU. Et surtout que dans l'affaire, les gens parlent d'un contrat avec, par rapport à une mission de l'ONU ici, donc, de l'ONU aussi. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas une affaire de l'ONU. Ça, c'est compliqué. Maintenant, quand il dit que c'est entre deux pays frères, bon, moi quand même j'ai eu comme l'impression que le Premier ministre veut aller plutôt vers, comme on le dit, un bon arrangement qu'un bon procès.
D'accord.
S'il va vers un bon arrangement, c'est une très bonne chose parce que nous avons beaucoup de problèmes à régler, nous n'avons pas besoin d'en faire plus.
Nous allons développer tout de suite, nous allons aborder cette question des liens qui existent entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Monsieur Mamadou Doucouré, comment vous avez trouvé ce discours, surtout l'aspect sur la question des militaires détenus ici?
Bon, Fusil salue et encourage, soutient le ton du discours. Nous avons compris que chaque mot avait son pesant d'or. Rien n'a été balancé au hasard. La chronologie des faits, sa démarche, Fusil adhère entièrement à ces discours-là et se reconnaît entièrement dans ces discours. Premièrement, ce discours fera date dans les annales de l'ONU. Et ce discours sera historique. Ça nous a rappelé les années 63-64 sous Modibo, lorsque Ousmane Ba, ministre des Affaires étrangères du Mali, passait devant l'ONU. C'étaient les mêmes personnes qu'on retrouvait. Donc, nous avons senti en lui la dignité du Malien, la dignité retrouvée. Et avec lui, on sait que le Mali sera désormais respecté. On ne peut pas avoir de telles peines, de telles douleurs avec nos partenaires, de telles trahisons, de telles piqûres, et puis aller caresser les gens dans le sens de leur poil. Ce n'est pas possible.
D'accord. Donc, mais quand le Premier ministre dit que l'affaire des 46 mercenaires ivoiriens est une affaire judiciaire et bilatérale entre deux pays, frère, est-ce que ça vous suscite de l'espoir ou bien ça vous inquiète?
Bon, pour nous, Fusil, on dit souvent en Bambara que Amadi Diota l'a été au Rétikumbo. De la Côte d'Ivoire à nous, les relations sont séculaires. De la Côte d'Ivoire à nous, il ne faut pas que de par cette affaire, on casse les poutres qui ont toujours soutenu le vivre ensemble entre Ivoiriens et Maliens. On trouvera la solution. Mais nous pensons que la solution n'est même pas loin. Il y a eu des égos qui se sont confrontés, c'est ce qui nous a amenés là. Sans quoi, dès le départ, il y a des démarches à faire. Les démarches qu'ils ont eu à faire, si on les avait effectuées dès les premiers jours de l'affaire, je prends par exemple un exemple, un président ado qui prend son avion et tombe à Bamako, il dit à son jeune frère, je suis venu chercher mes gars. Quel que soit le comportement ou les griefs que vous avez détectés dans cette affaire-là, ce sont vos frères. même s'ils ont failli, remettez-moi-les, je les ramène chez moi. Je crois D'accord. que l'affaire était réglée. D'accord. Mais il y a eu tellement de versions, il y a eu tellement de oui, de non-dits, qu'ils ont compliqué une situation qui aurait dû avoir son dénouement la première semaine de la situation. Comme il a dit, moi je préfère un mauvais arrangement à un bon procès.
D'accord. Voilà. Docteur Sogodougou, en tant qu'analyste politique, quand vous écoutez cette déclaration du Premier ministre qui dit que l'ONU n'a rien à voir dans cette affaire, c'est une affaire bilatérale et judiciaire, est-ce que vous, ça vous inquiète ou bien vous pensez que ça doit susciter de l'espoir ?
Non, ce n'est pas si surprenant dans les relations internationales. D'abord, bonsoir à toutes ces personnes qui nous écoutent en ce moment et merci pour l'invitation une fois de plus. Ce n'est pas surprenant parce que les États, une fois qu'il y a une situation conflictuelle, chacun essaye de se défendre au mieux en essayant de mieux défendre son dossier, en essayant d'avoir une grande légitimité autour sur la scène internationale, en avançant un ensemble d'arguments. Et si vous regardez bien, depuis l'éclatement de cette crise-là, le Mali a aussitôt suscité la médiation togolaise et qui a donné des débuts de résultats. Je pense qu'il doit être toujours encouragé. Même s'il y a eu peut-être pour les Ivoiriens des propos à un moment donné qui semblaient leur dire autre chose, il fallait quand même, je crois, rester dans cette médiation. Parce que en voulant transformer l'affaire, ou en tout cas en voulant aller de la médiation entre le Mali et la Côte d'Ivoire vers une médiation multilatérale, c'est comme si on revenait à la cage de départ. Donc l'implication de l'ONU aujourd'hui, ou encore de la CEDEAO comme médiateur, il risque de faire traîner ce dossier plus qu'il ne le devrait.
Pourquoi la multilatéralisation de ce dossier?
Justement, la multilatéralisation, j'ai l'impression que cette médiation a été quelque part instrumentalisée, parce que quand on fait confiance à un médiateur, on lui fait confiance et on s'inscrit de bonne foi dans cette logique pour qu'il y ait un dénouement, n'est-ce pas, avec l'aide de ce facilitateur. Mais dès que vous sentez une fenêtre d'opportunité qui vous permet de sortir de cette médiation parce que vous sentez que vous avez un argument aujourd'hui qui vous rend plus légitime, c'est-à-dire qui vous fait place en position de victime vis-à-vis de la communauté internationale, et vous engagez une autre voie de règlement de ce même différend, voyez-vous, vous n'aidez pas, vraiment, vous ne faites pas honneur au médiateur à la base. Moi, je considère que c'est une sorte d'humiliation, quelque part même vis-à-vis de la diplomatie togolaise.
D'accord. Madame Sangaré, on avait l'impression qu'on est en train de voir le bout du tunnel dans cette crise. Hein, le 3 septembre dernier, quand trois soldats ont été libérés, alors avec cette déclaration des autorités ivoiriennes qui parlaient de manquement, d'incompréhension qu'ils ont déploré. Aujourd'hui, on voit que la tension devient de plus en plus, en tout cas, perceptible avec ces déclarations de part et d'autre. Comment vous comprenez ça? Qu'est-ce qui est à l'origine de ça?
Il vient de le dire avant même que vous posiez la question. C'est clair. Ils ont vu l'opportunité de se placer.
Quelle est cette opportunité?
Cette opportunité, c'est que ils ont vu que avec la médiation togolaise, les choses n'iront pas à leur rythme comme ils le souhaitent. Le Mali, c'est un pays d'humanisme. Et vous savez que j'ai même pas été surprise dans une de mes interventions passées. J'ai dit, mais enlevez au moins les femmes dedans. Et à ma grande surprise, ça a été fait, quoi. Et voilà. Donc, le Mali est ce genre de pays-là. Ils auraient dû rester derrière cette première médiation togolaise. Parce que quand vous avez écouté l'envoyé de la présidence de la Côte d'Ivoire dans ses propos, on était extrêmement satisfait que cette affaire s'arrêtera là, ça n'ira pas au niveau de la justice. Mais subitement, on entend des responsables de la Côte d'Ivoire dire qu'ils vont saisir CEDEAO, ils vont saisir l'ONU pour cette affaire qui avait déjà connu un dénouement heureux. On s'est posé des questions. Quelle autre information, une autre étape nous a manqué pour qu'ils se rebiffent et va au-delà de la meilleure manière de résoudre cette affaire-là? Il faut dire que ils ont voulu profiter de la 77e session parce qu'il y aura d'autres sujets sur le Mali pour mettre la pression. Moi, je pense que c'est ça qui est la vraie raison. Pensant que peut-être le Mali arrivera moins armé, il y a trop de sujets concernant le Mali, ils sont mieux vus là-bas que le Mali. Je ne suis pas au secret de Dieu, mais c'était une mauvaise sortie ou c'était une mauvaise opportunité à saisir. Il fallait rester derrière la médiation togolaise parce que le Mali, à son temps aussi, avait demandé des choses au Togo. Et je pense qu'en contrepartie, de plus en plus, le Mali allait céder à la médiation togolaise que cette façon de faire. Mais il y a une chose que j'aimerais dire, vraiment que nos auditeurs comprennent et que l'ensemble des personnes présentes ici sur le plateau comprennent, c'est que ce n'est pas parce que le Mali fait partie de l'ONU que ça fait de ce dossier un dossier de l'ONU. Il faut que cela soit clair. Le Mali peut faire partie de l'ONU et cette affaire est strictement bilatérale entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Pour la simple raison que, avant que le Mali ne fasse cette sortie, le Mali a demandé à l'ONU de clarifier si à ce moment l'ONU s'était dit oui, ce sont nos gars ou ce sont des gens qui sont sous nos responsabilités, mais de façon contractuelle avec X ou Y. Je pense que Mali n'allait pas faire cette posture-là. Mais le Mali a d'abord demandé à l'ONU. Le Mali, il est important de le rappeler, le Mali a demandé à la Côte d'Ivoire même. Donc le Mali a demandé à l'ONU. L'ONU a répondu avec une note verbale sans ambiguïté, qui n'ont rien à voir avec ces gens-là. Donc c'est surprenant en tant qu'homme politique, femme politique ou intellectuelle que l'ONU se permet, après avoir dit qu'on n'a rien à voir avec une note officielle, d'aller en parler ou se permettre de donner un jugement.
D'accord.
Donc moi, je suis convaincue, je vais finir avec ça, oui, que le Mali a intérêt, la Côte d'Ivoire, tous nos deux pays-là ont intérêt de traiter cette affaire de façon bilatérale. Et une fois de plus, pour que nos autorités, je vais dire, perdent la face, parce qu'ils ne vont pas aussi libérer et dire que nous sommes indépendantes et notre justice, on ne s'implique pas dans les affaires judiciaires, et libérer. C'est pourquoi faites un jugement, je le répète, parce que c'est la seule chose que je vais dire à ce dossier, parce que je ne vois pas autre façon.
D'accord.
Donc il faut faire ce jugement, les juger en fonction de leur infraction au crime, et ensuite utiliser la voie diplomatique, la grâce présidentielle est utilisable.
D'accord. Voilà. Doura Cheikh, pensez-vous la même chose, que cette affaire reste bilatérale comme les autorités l'ont dit, et qu'on ne devait pas impliquer d'autres organisations dedans?
Vous savez, c'est important de le dire, quand des pays membres de l'ONU sont en mésentente, quand il y a incompréhension, l'ONU a pour mission d'intervenir. Et donc, moi, je le reprends encore une fois de plus, ce n'est pas de l'ingérence que l'ONU parle de ces dossiers. C'est tout à fait normal. Maintenant, pourquoi nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau? Ça, c'est vraiment important. Là, ça permet de faire une analyse. Moi, je dirais que depuis les premières heures de l'arrestation de ces gens-là, il y a eu malheureusement une campagne médiatique autour du dossier. Parce que...
De la part de qui?
De la part du Mali. Il y a eu une campagne médiatique. On se rappelle un petit quiproquo qui est intervenu entre la police et les militaires, parce que les policiers, à un moment, pour dire que c'était comme une trophée, quoi, pour dire c'est nous qui avons fait le travail, a pu parler et a été interpellé. Et donc, il y a eu une campagne médiatique autour du dossier. Pourtant, le dossier était tellement sensible que ça ne nécessitait pas cette campagne médiatique. Et donc la campagne médiatique a fait que le dossier a pris une ampleur. Et donc aujourd'hui, le Mali a certainement, ça c'est une analyse, a certainement posé des conditions. Et ces conditions-là, peut-être ne conviennent pas à la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire peut aussi jouer sur d'autres tableaux. Et donc je pense qu'un pays membre peut poser effectivement sur la table de l'ONU des problèmes comme tels. Et donc c'est aux autres de voir selon les règlements en vigueur et de trancher. Moi je dirais tout simplement que si nous voulons avoir, le Premier ministre par intérim a dit que c'est une affaire entre deux pays frères. Et donc, ils agissent en tant que deux pays frères. Effectivement, il a été dit ici qu'Alassane pouvait prendre son avion pour intervenir à Bamako et demander à son jeune frère, à son voilà, cadet, « Bon, je viens chercher mes gars ». Tout comme les cadets pouvaient aussi prendre son téléphone, pas pour aller, comme le déplacement n'est pas toujours facile pour certaines personnes, prendre son téléphone pour dire « Ah, mon coro, l'aîné, il y a des gens qui sont là, c'est des Ivoiriens. Voilà, bon, voilà. Moi, ils ne sont pas dans une situation régulière, ils sont là, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Ils pouvaient faire ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si nous ne gérons pas ces problèmes-là, moi, je ne dirais même pas de manière comme ma sœur sur le plan droit, machin. Pour moi, les problèmes peuvent être réglés, pas forcément sur le plan droit. Mais les problèmes, si c'est mal réglé, ça va être très, très difficile pour les deux pays. Parce que quand les pays négocient, si moi j'ai intérêt à vendre, l'autre aussi a intérêt d'acheter. Et si jamais, eh bien, cette situation malheureuse arrive à froisser toutes ces relations qui existent entre ces pays, ces deux pays-là, je pense que ça va être beaucoup plus malheureux pour nous deux, mais surtout beaucoup plus malheureux pour le Mali, qui est déjà dans des problèmes. D'accord. Et qui n'a pas besoin, eh bien, de faire D'accord. face à
nous
d'autres problèmes.
Nous allons parler des conséquences possibles sur, quand, en cas de non-résolution de cette crise. Mais en attendant, M. Mamadou Doucouré, nous voyons que la Côte d'Ivoire a saisi la CEDEAO et qui s'implique, qui a annoncé l'arrivée d'une délégation de chefs d'État. Pensez-vous que ça pourrait être une solution à ce problème ou bien ça risque de compliquer les choses?
Bon, à mon avis, c'est le début d'une solution. À mon humble avis, et les Ivoiriens, et les Maliens, les dirigeants, pour rentrer dans l'histoire, doivent saisir cette occasion, parce que le déplacement des trois chefs d'État, c'est au-dessus d'un pays, quoi. C'est même au-dessus de la CEDEAO. Trois chefs d'État qui se déplacent, quelles que soient les raisons, on ne doit pas faire du blackout dessus, on doit pouvoir se comprendre et trouver une solution. On a dit qu'il faut un mauvais arrangement, vaut mieux qu'un bon procès. Tout le monde est unanime que les preuves fournies par le Mali jusque-là ont été irréfutables. Au niveau de l'ONU, au niveau des Ivoiriens, ils n'ont en aucun moment pu donner des raisons pour lesquelles ces gens-là justifier la présence de ces gens-là sur notre sol.
Oui, mais le secrétaire général a dit, s'il n'était pas des mercenaires.
Non, il a parlé.
Même si c'est vrai que dans un premier temps, ils ont dit qu'ils ne connaissaient pas ces éléments.
Oui, mais il ne faut pas être secrétaire général de l'ONU pour savoir que quand un lieutenant se déplace, il a un ordre de mission. C'est écrit « lieutenant Gadigo » dessus, mais on ne mettra pas « blanchisseur Gadigo » et puis « réparateur des motos ». Ça, c'est des dessins qui ne disent pas leur nom. Ça, c'est très clair pour tout le monde. On sait tout ça. Les faits sont là, ils sont têtus. Ils sont irréfutables. Mais le Mali est au-dessus. Si nos autorités, ceux de la Côte d'Ivoire, tout le monde veut rentrer dans l'histoire, parce que c'est que nos prédécesseurs ont sauvegardé ces histoires-là. Si vous ne savez pas, lorsqu'il y a eu l'éclatement de la Fédération du Mali et que le Sénégal a fermé ses frontières, Modibo Keïta a envoyé Amadou Ampateba, qui était l'ami de Oufuette Boigny, afin de nous ouvrir le port d'Abidjan. Ça, on n'est pas prêt à oublier ça. Et même demain, nous aurons besoin de ce port parce que naturellement, on a été situé comme ça. Les colonies maliennes qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont des millions. Leur bonheur, c'est notre bonheur. Donc, même si on doit, sur la Constitution, nous avons dit que nous sommes prêts à abandonner une partie de notre souveraineté pour l'unité africaine, mais là, une partie de notre orgueil pour pacifier cette situation et passer à autre chose, comme l'autre l'a dit, Nyoka Tchaou là au Mali, on a trop de choses à faire que de perdre son temps dans ce petit dossier qui ne nous avance absolument à rien.
D'accord.
Voilà.
Y a-t-il encore des chances, je reviens toujours à cette question, docteur Segoudougo, avec l'implication de la CEDEAO, par exemple, qui fait que le dossier est devenu une affaire multilatérale. Est-ce qu'il y a des chances qu'il y ait une résolution diplomatique?
Effectivement, il y a de grandes chances qu'il y ait une résolution diplomatique parce que même si la Côte d'Ivoire a inversé un peu, en se retirant de la médiation togolaise. La voie qu'elle préconise, c'est une autre médiation encore. Ça veut dire qu'elle s'inscrit aussi dans la voie diplomatique pour résoudre cette affaire-là. Donc les deux acteurs sont à ancrer dans ce sens. Je veux dire là, le gouvernement malien et le gouvernement ivoirien, de poursuivre cette voie. Mais franchement, je n'aurais pas souhaité qu'on aille vers cette médiation multilatérale, parce que je crois que même s'il y a des compréhensions diverses du sujet, à un moment donné, il serait préférable que le Mali et la Côte d'Ivoire retournent dans la médiation togolaise, parce que le Togo, c'est quand même un pays frère, un pays ami au Mali et à la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas lui mettre dans une telle mission et du jour au lendemain faire comme si voilà, le Togo était malpropre, qu'il n'était plus bon à écouter.
Est-ce qu'il y a une crise de confiance entre les autorités maliennes et la CEDEAO?
Évidemment, même si ce n'est pas une véritable crise, je pense que la CEDEAO a raté son introduction dans ce dossier dès qu'il y a eu des propos un peu, en tout cas inquiétants, entre le Mali et la Côte d'Ivoire dans ce dossier. Je crois que les chefs d'État auraient pu rapidement organiser un sommet et dire qu'il y a une situation de crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire et se saisir rapidement de ce dossier. Pourquoi même pas désigner rapidement un médiateur qui allait aider ces deux pays à dépasser cette situation? Mais ça n'a pas été le cas. Il a fallu que le Mali lui-même sollicite la médiation togolaise et que la Côte d'Ivoire accepte, parce que les deux pays sont à saluer. Parce que ce sont ces deux gouvernements qui ont accepté de prendre le Togo comme médiateur pour leur permettre de dépasser ce problème-là. Et je reconnais encore que cette médiation togolaise me semble être la meilleure voie. C'est dans cette voie que ni le Mali ni la Côte d'Ivoire ne va perdre l'honneur. Parce que c'est important, quand on représente un pays, on doit tout faire pour que son pays ne se sente pas humilié ou qu'il ne perde pas son honneur dans la gestion d'une affaire internationale.
D'accord.
Et donc, vous savez, si dans la gestion d'une crise, une partie se considère comme lésée ou humiliée, c'est qu'il faut s'attendre à des revanches dans l'histoire, dans l'avenir.
Alors, Madame Sangari, cette délégation qui est annoncée, est-ce qu'on peut la considérer comme la mission de la dernière chance, ou bien il faut toujours espérer sur le plan diplomatique?
Ben, Monsieur Gadiou, on va espérer. On va espérer parce que c'est toujours bon d'être opportuniste. Voilà. Exactement. C'est toujours bon de garder l'espoir sur... optimiste, je veux dire, de garder espoir sur ces sujets-là. Mais selon moi, là où le dossier est arrivé, ça va être difficile, que ce soit par l'arrivée de ces trois chefs d'État, peu importe leur statut. On connaît déjà ce qu'ils font au sein de la CEDEAO. Et qu'est-ce qui a été leur première action quand cette affaire a éclaté au sein de la CEDEAO? C'est pourquoi le Mali s'est tourné vers la médiation togolaise. Une fois de plus, oui, il y a l'espoir de régler cette affaire de façon diplomatique, tout en restant dans le canevas de la médiation togolaise. Il a dit autrement quelque chose que j'avais dit précédemment. Le Mali ne va pas accepter de perdre la face. Il faut juger cette affaire, il faut analyser, parler de cette affaire dans la pensée actuelle du Mali. Le Mali, même si je ne suis pas d'accord avec certaines choses, se tape la poitrine. Non, on est indépendant, on est ceci, on est cela, notre justice est cela. Mais ils ne peuvent pas aussi libérer ces gens-là avec tout ce qu'ils ont eu à nous dire à nous en tant que citoyens. Ça n'a rien à dire, on ne l'acceptera pas.
Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui? Est-ce que les autorités ont besoin de quelque chose, d'une garantie, d'un engagement de la Côte d'Ivoire pour pouvoir accepter de libérer? Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait en contrepartie, entre guillemets?
Moi, de mon point de vue, je ne vois pas cette affaire de façon de contrepartie même. Mm-hmm. Vous avez pris des gens, vous avez des preuves, votre justice est indépendante, jugez-les! Moi, je ne vois pas de contrepartie. En tout cas, dans ma philosophie, je ne vois pas que le Mali doit demander une contrepartie de quelque chose. Pour moi, ça, c'est des méthodes, je ne dirais pas malsaines, mais pourquoi? Moi, je ne comprends pas ça. Vous les avez pris, vous avez dit que ce sont ceci. On a des preuves. Votre justice est indépendante. Jugez-les. Et puis après, si il y a notre humanité, il y a l'histoire entre nos deux pays, il y a des possibilités de faire des choses ensemble. Mm-hmm. C'est tellement simple. Vous voulez montrer au monde entier, nous voulons montrer au monde entier qu'ils ont fauté. Nous avons les preuves qu'ils ont fauté. On les a remis à la justice. Activez la justice, dites que ce dossier ne doit pas traîner. Les preuves sont là, dites qu'est-ce qu'ils ont fait. C'était quoi les éléments dont les citoyens ne sont pas au courant. Jugez-les et en ce moment, la diplomatie et cette solution diplomatique ou bilatérale dans la médiation togolaise, vous les remettez en bonne forme et due forme à la médiation togolaise. Par la grâce présidentielle, personne ne se plaindra de ça. Le Mali a appliqué sa justice, le Mali a montré que sa souveraineté est là, le Mali a montré que sa justice est indépendante, le Mali aussi dans sa constitution, le président a le droit de gracier quelqu'un, même s'il a tué quelqu'un.
D'accord.
Et on tourne cette page, on se concentre à l'essentiel.
D'accord, cela est bien compris. Doura Cheikh Diarra, est-ce que vous aussi vous êtes un peu sceptique par rapport aux chances de réussite de cette mission qui est annoncée?
Bon, ça dépend de la sagesse. Ça dépend de la sagesse de ceux qui ont aujourd'hui la lourde responsabilité de gérer les pays. On ne gère pas un pays par des sentiments, par le cœur. Le cœur est très important, mais le cœur doit être toujours guidé par la raison. Donc on doit plutôt voir les intérêts, parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'apprécier les situations qui se présentent, surtout quand il s'agit des affaires aussi complexes comme celles des États. C'est très difficile pour des citoyens à un certain niveau d'apprécier et de savoir quelle est la juste décision. Et donc quand on est responsable dans un pays comme le Mali, dans la situation actuelle, on doit comprendre cela et faire ce qui est juste. Moi je pense qu'aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire a décidé, parce qu'on ne sait pas pourquoi, madame a posé aujourd'hui tout de suite là une très bonne question, elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi on ne juge pas et peut-être gracier après si on veut rester toujours des bons amis, des bons voisins. Mm-hmm. Mais la question c'est quoi? La question c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, pourquoi des gens qui ont fauté, qui ont été pris la main dans les sacs, parce que c'était aussi évident que ça, pourquoi demander un médiateur pour aller négocier quoi? C'est ça la véritable question. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas. On ne sait pas qu'est-ce qui est fort à proposer. On ne sait pas tout cela. On ne rentrera pas dans les secrets de la médiation. On n'a même pas les moyens ici pour le faire. Mais si la Côte d'Ivoire a décidé de se retirer de cette médiation ou a décidé d'expérimenter, d'aller vers une autre solution, c'est que la Côte d'Ivoire a peut-être ses raisons. Mais aujourd'hui, les Maliens ont besoin de quoi aujourd'hui? Les Maliens ont besoin de la paix avec leurs voisins. Les Maliens ont besoin de la solidarité avec leurs voisins. Les Maliens n'ont pas besoin de problèmes avec leurs voisins. C'est pourquoi aujourd'hui, même si c'est, je ne sais pas qui d'autre là, qui vient pour que nous puissions nous entendre et qu'on puisse avoir un règlement pacifique, amiable, eh bien, moi je pense que ça doit être saisi, une opportunité qui doit être saisie par les autorités. Maintenant, si on veut toujours, parce qu'on a habitué les peuples à cette danse-là, à tous ces discours-là, si on veut toujours aller dans ce sens-là, ça va être compliqué. Comme les grands frères ont dit, si l'orgueil est devant la raison, ça va être compliqué.
Pensez-vous que c'est le cas maintenant?
Mais non, j'ai dit que ça va dépendre. Pourquoi ça va dépendre? Les gens peuvent dire la CEDEAO a fait ceci, la CEDEAO a fait cela, ils sont en complicité. Si on considère tout ça, ça va être compliqué. Mais si on se dit non, nous avons des dossiers plus importants, essayons de trouver rapidement la solution à ce problème-là qui ne doit pas nous tirer derrière. Et à ce moment-là, les autorités vont avoir la sagesse nécessaire, la sagesse qu'il faut pour discuter, pour faciliter les choses. D'accord. Avec les présidents de la CEDEAO qui arrivent. Moi, je dirais qu'on n'a pas de temps à perdre sur ces dossiers.
D'accord.
Il faut tout de suite trouver la solution. Les présidents qui viennent, les autorités du Mali, doivent saisir cette occasion pour discuter franchement avec leurs frères de la Côte d'Ivoire, comme le Premier ministre a dit, par ces canaux-là, et donc trouver un arrangement.
D'accord. Monsieur Doucouré, qu'est-ce que autorités maliennes et ivoiriennes doivent faire pour que cette mission qui est annoncée soit une réussite, même si d'abord on ne sait pas, on n'a pas de précision par rapport à la date d'arrivée de cette mission. Elle était annoncée pour aujourd'hui. Les autorités maliennes ont dit que voilà, elles ne seront pas disponibles pour aujourd'hui, peut-être vendredi, jeudi ou vendredi. Est-ce qu'il y a des dispositions à prendre dès maintenant des deux côtés pour que cette mission n'échoue pas ?
Moi, je crois que la mission dépend des missionnaires et le message qu'ils vont porter. S'ils portent un message de juste le milieu, qui gardera l'honneur, la dignité de chaque partie, malgré tout ce que l'on sait, je crois que la mission ne sera pas compliquée. Mais si une partie pense que cette mission a un penchant pour une des parties, ça va être compliqué et un échec. Donc, tout ce qu'on peut dire, on ne sait pas ce qu'ils ont dans leur sac pour venir proposer aux Maliens comme palliatif ou comme soulagement pour que le Mali puisse dire à son peuple, les dirigeants puissent dire à leur peuple, pour telle ou telle raison, et ce que nous savons d'historique, il n'y a pas de raison, c'est qui nous, le point d'achoppement d'aujourd'hui est tout petit par rapport à ce qui nous lie depuis des siècles et ce qui nous attend. Face aux difficultés du Mali, je crois que si la Côte d'Ivoire venait à créer des difficultés encore supplémentaires au Mali, je crois que nos projets ne verront pas le jour facilement. D'accord. Donc nous souhaitons un apaisement, mais ça dépendra du message porté par la mission qui doit être la mission de négociation.
Alors, docteur Sougoudou, est-ce que cette mission a des chances de réussite quand on sait déjà que les autorités maliennes n'ont pas apprécié le fait que la CEDEAO, par exemple, demande la libération sans condition de ces militaires ivoiriens? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne se dit pas que c'est perdu d'avance?
Bon, vous savez qu'en matière de politique internationale, rien n'est perdu d'avance parce que c'est ce qui est en jeu sur la scène internationale, ce sont les besoins et les intérêts des différents acteurs. Et ces besoins et ces intérêts ne sont pas statiques, sont dynamiques. Donc ça évolue avec le temps, avec le monde, c'est un espace qui est en ébullition, quoi. Donc on comprend ça. Je dis d'habitude à mes étudiants dans les cours de négociation et médiation internationale que le succès d'une médiation ou son insuccès dépend principalement de trois facteurs qui me semblent les plus importants. Un de ces éléments, c'est la qualité même du médiateur. Si le médiateur est considéré comme étant partial ou impartial, ou si le médiateur a suffisamment de moyens pour mettre la pression ou en tout cas créer des conditions de facilitation, c'est-à-dire à inciter les parties à venir à la médiation, ça joue. Il y a aussi la nature du conflit. La nature du conflit peut être parfois un élément qui rend la gestion de ce conflit difficile. Et dans le cas malien, il ne faut pas négliger la nature de ce conflit ici. Ce qui est en jeu, c'est une question de sécurité nationale. Est-ce que le Mali prend la présence de ces personnes-là que, bon, je ne sais pas, il y a ce débat sur tout mercenaires, militaires. En tout cas, ces personnes, peu importe vous êtes dans de quel type de qualification, leur présence est considérée comme étant une menace à la sécurité par les autorités actuelles. Donc, ça ne facilite pas. Et ensuite, le timing même de la médiation. La médiation intervient à quel moment ? C'est-à-dire, le moment, là, je fais allusion à des éléments qui favorisent la gestion du conflit. Tant qu'une des parties pense pouvoir prendre le dessus par lui-même en imposant sa voix dans la gestion du conflit, il ne va pas vouloir coopérer de façon objective. Et donc, voyez-vous, tant qu'un certain nombre de conditions ne sont pas réunies, il n'est pas évident d'arriver à une solution. Et c'est justement ce qu'on voit. Et si le Mali dit qu'il n'est pas prêt à recevoir cette délégation le mardi, tel que la CEDEAO l'avait souhaité, quels moyens la CEDEAO dispose aujourd'hui pour contraindre le Mali à prendre, à accepter de recevoir ce chef d'État-là ? Voyez-vous, c'est une autre forme d'engager des répressions et qui n'arrange toujours pas la situation. Et c'est pour cela que je disais au début, la meilleure formule aurait été que la Côte d'Ivoire et le Mali reviennent toujours dans cette médiation togolaise, quitte à ce que la CEDEAO, l'ONU, je ne sais pas quel autre acteur qui a un intérêt particulier, appuie cette médiation. C'est ce qu'on a vu, par exemple, en 2015, quand l'Algérie a joué un rôle de chef de file d'une équipe de médiation, où il y avait un ensemble d'acteurs qui accompagnaient cette médiation.
Alors il faut préciser que la délégation qui est attendue, il y aura le président togolais,
voilà, sénégalais, etc. Oui, mais à la condition de qui ? Sur la demande de qui ?
À quelles conditions? C'est ça. Parce qu'une médiation doit être acceptée par les parties.
D'accord.
Tant qu'elle n'est pas acceptée par les parties, le médiateur n'a pas la légitimité et les moyens nécessaires d'exercer une influence quelconque.
D'accord. Maintenant, une question à vous quatre. Si toutefois cette médiation, cette délégation qui est annoncée n'arrivait pas à trouver une solution à l'amiable, à quoi faut-il s'attendre, docteur Segoulou?
Je pense que elle ne va pas forcément trouver sa vata, pas peut-être au premier essai, mais je pense que le Mali et la Côte d'Ivoire, je l'ai tantôt dit, tous les deux sont inscrits dans une gestion pacifique, diplomatique de ce conflit. Donc je garde espoir que cette médiation, en tout cas qu'elle soit togolaise ou encore multilatérale, ça va finir par aboutir à un résultat positif. Ça, je reste convaincu de cela. Ce qui fait que j'ai du mal à imaginer l'autre suite. Si l'autre suite, c'est voilà, si la Côte d'Ivoire veut libérer ses militaires par la force, voyez-vous ce que ça peut créer. Je n'ose même pas penser à cela.
Est-ce qu'il y a la possibilité que la CEDEAO prenne des sanctions? Est-ce que ces textes prévoient de telles choses?
Non, toujours quand il y a, même pas la CEDEAO seulement, si l'ONU considère qu'il y a une menace à la paix internationale, en vertu du chapitre 7, c'est pas pour éviter un futur conflit ouvert entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Ça, personne ne le souhaite d'ailleurs. Et je pense que nos autorités sont assez sages, maliennes comme ivoiriennes, pour ne pas en arriver à ce niveau.
D'accord.
Mais ce qui peut se passer, en fait, le fait que le Mali ait arrêté ces personnes-là, pour ne pas tomber dans une violation des droits humains, donc autrement dit une détention arbitraire, le Mali est obligé de judiciariser cette affaire-là. Et je pense que c'est ce qui va se faire. Il faut que la procédure judiciaire aille rapidement au bout.
D'accord. Nous allons donner la parole à Mme Sangaré pour qu'elle nous dise qu'est-ce qu'elle pense qu'il faut faire pour que cette mission n'échoue pas, mais aussi en cas d'échec, à quoi peut-on s'attendre?
Espérons qu'il n'y aura pas d'échec à cette mission. Même si elle n'aboutisse pas sur la question des militaires, que ça sert au moins à apaiser davantage nos rapports avec les voisins, qui ne sont pas d'exemple de reproche non plus. Hein. Autant le Mali doit faire la paix avec ses voisins ou éviter que certaines situations soient aggravées, autant cette même remarque est valable pour les voisins du Mali qui se sont donné certaines libertés quand ils parlent des sujets du Mali. Donc,
on peut s'attendre à quoi en cas d'échec?
En cas d'échec, on peut s'attendre à ce que la CEDEAO soit encore plus fâchée contre le Mali, parce que la CEDEAO souhaite vraiment se saisir de ce dossier-là, mais ils ont raté le moment où ils devraient le faire. C'est eux c'est la CEDEAO qui devait prendre le leadership dès le début. Donc, on peut s'attendre à ce que d'autres voies, le Mali utilise d'autres voies pour mettre en selle la médiation togolaise. Parce que moi aussi, je reste convaincue que c'est la médiation togolaise que le Mali souhaite. Je ne connais pas les raisons, honnêtement. Mais les indicateurs que je vois, que nous pouvons analyser, le Mali souhaite que cette affaire soit restée dans le cadre de la médiation togolaise et que ça reste une affaire bilatérale. Ils ont peut-être leurs raisons ou qu'est-ce qu'ils recherchent en s'accrochant à ça. Mais moi, je pense que si ça ne marche pas, les deux parties ont intérêt à trouver les voies et moyens pour remettre la médiation togolaise en selle et puis enlever toute passion à ce dossier-là.
D'accord.
Enlever toute passion à ce dossier-là.
D'accord.
Que les Maliens identifient, c'est comme ça qu'on veut. Et puis la Côte d'Ivoire aussi veut comme ça qu'on veut. Et la médiation n'a qu'à trouver la façon dont les deux pays ne vont pas perdre la face.
D'accord.
Parce qu'en définitive, ce sera question de perdre la face.
D'accord. Doura Cheikh, à quoi peut-on s'attendre?
Moi, je dirais dans un premier temps qu'on ne peut pas dire qu'on ne voit pas la CEDEAO, une mission de la CEDEAO d'un bon œil et dire en même temps d'un bon œil parce que peut-être que c'est des gens qui seront manipulés par des puissances impérialistes et dire de l'autre côté on fait plutôt confiance à Faure qui est un partenaire privilégié de la France en Afrique, tout le monde le sait, je crois que ce n'est caché à personne. Bon, donc moi je pense qu'aujourd'hui si jamais ça ne marche pas, mais je crois fermement à 80% que ça va marcher, si ça ne marche pas, eh bien, je vois très mal aujourd'hui un conflit armé. Mais il faut s'attendre à des actions. À des sanctions. Et le Mali n'a pas besoin aujourd'hui des sanctions. Des sanctions de l'ONU, mais des sanctions de certains pays. comme l'Allemagne qui, depuis le début de la crise, a demandé la libération de ces gens-là, l'Allemagne. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. C'est pourquoi je pense que les autorités vont avoir la sagesse pour avoir la mesure de la situation et faire ce qui doit être fait.
D'accord.
Saisir cette occasion pour finir avec ces dossiers-là, comme j'ai toujours dit, et passer à l'essentiel.
D'accord. Monsieur Doucouré, le dernier mot à vous,
voilà,
peut-on s'attendre ?
Aucune des parties n'a intérêt, ni la CEDEAO, ni la Côte d'Ivoire, ni le Mali, que la situation demeure comme telle. Donc nous croisons les doigts. Nous pensons que la délégation aura suffisamment de diplomatie, d'arguments pour que les deux parties puissent se mettre ensemble et qu'on finisse avec cette situation et passer aux actions de développement dont on a besoin aujourd'hui au Mali.
Merci. D'accord. Et c'est sur ce que prend fin ce grand dialogue qui parlait ce soir de la tension Mali-Côte d'Ivoire. Quelle chance pour une résolution à l'amiable. Nous recevions sur ce plateau Madame Assetou Sangaré, présidente du Parti pour le Renouveau et le Développement PRD, M. Mahamadou Doucouré, vice-président de Fusi Mali, c'est le Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, Dora Cheikh Diarra, membre du Parti SADI, Solidarité africaine pour l'indépendance, pour la démocratie et l'indépendance, et Dr Abdoul Sogodogo, analyste politique et universitaire. Cette émission a été mise en ondes par Adjaratou Traoré, à la régie vidéo, il y avait Salim Diouara, Sekou Gadjigo vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous et à demain pour un autre numéro.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chien Niperi.
Halou Mandi.
Chien Niperi.